Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Depois senti o arrepio do vento que a noite traz, e o disque macio que brota dos coqueirais. E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Ao sol que arde em Itapuã, falar de amor em Itapuã. Ao sol que arde em Itapuã, de amor Itapuã, fala de amor Itapuã, fala de amor Itapuã, fala de amor Itapuã, passa uma tarde.
Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, nous sommes ici au studio Radio Zone, sur Radio Chalumeau, en présence, enfin il y a d'abord l'équipe du studio, c'est Herbert, Robert, c'est moi, et Moreau, un Italien émigré qui a voyagé beaucoup et qui est un grand aventurier de ce siècle contemporain. Et il va nous parler un peu de son voyage assez récent qu'il a effectué en mission, en quelque sorte, en Amazonie, n'est-ce pas? Enfin, moi, je sais très peu de choses de ce qu'il a fait, mais en tout cas, ça risque d'être passionnant. Il va nous parler de l'Amazonie qu'on connaît si peu, dont on a entendu parler si souvent. Enfin, je sais pas, de quoi va-t-on parler?
On va parler un peu de tout. On va parler de la jungle, des gens de la jungle. On va parler des...
Mais en fait,
les Indiens.
Bon, tu es parti quand?
Ouais, moi, je suis parti en 85. En juillet 85, début juillet 85.
Tu voulais partir de la Suisse?
Ouais, partir de Genève pendant une période, une année et demie. J'ai trouvé que je suis resté dehors une année. Et puis, assez rapidement, je me suis retrouvé en Amazonie. C'est-à-dire, bon, pour résumer un petit peu, pendant 2 mois, on a fait un peu la côte du Brésil avec d'autres amis. Et puis au mois de début septembre, je me suis retrouvé à Manaus, en Amazonie. Et là, j'ai rencontré un ami d'enfance qui faisait guide de jungle. Pour le nommer, c'est Jean-Pierre Schwartz, qui est assez connu maintenant à Genève, qui commence un peu à se faire connaître, puis c'est bien parce qu'il le mérite.
Connu pour avoir fait quoi?
Bah, lui, bon, disons que ça, il est parti à 17 ans au Pérou, puis de fil en aiguille, il s'est un peu retrouvé dans la jungle, il a trouvé son truc, quoi, sa vocation. Et puis je l'ai un peu rencontré par hasard dans les rues de Manaus, c'est-à-dire que j'ai entendu mon nom, Moreau. Puis en fait c'était Jean-Pierre qui m'appelait. Puis nous en fait on était des copains dès qu'on avait 13 ans quoi. Puis c'est comme ça que ça a démarré quoi. J'ai commencé à partir avec lui. Puis j'ai flashé quoi. Pendant que moi j'ai flashé sur la jungle.
Bon, des premières impressions, mais en fait tu me dis ouais on a allongé la côte, puis on s'est retrouvé en Amazonie, ça me dit rien du tout vraiment.
Bon, longer la côte, moi je suis parti de Recife.
Récif,
c'est le nord-est, c'est le nord-est du Brésil. Bon. J'ai fait quelques étapes dans le nord-est. Je suis arrivé à Belém, qui est l'embouchure du Rio Amazonas.
Et ah, parce là, que c'est en fait l'Amazonie, il y a un fleuve, quoi.
Ouais, il y a le fleuve.
L'Amazonas.
Ouais, l'Amazonas, c'est le fleuve principal, celui qui se jette dans la mer. Ah. Puis tous les petits fleuves de l'Amazonie se jettent dans le Rio Amazonas. Et puis la source de l'Amazonas, c'est Cochabamba. Il prend sa source là-bas.
Toujours
ça
au Brésil.
Ça se trouve au Pérou, non? Ça se trouve au Pérou, ah. Le Cochabamba. Puis ça part de là-bas. Puis ensuite, tous les autres rios de l'Amazonie se jettent se jette dans le rio Amazonas qui va se jeter dans la mer. Qui bon, ça c'est la, bon
c'est
25% de l'eau douce du monde quoi.
Manaus, c'est une ville qui se trouve près de l'embouchure ou bien?
Non, Manaus, ça se trouve au centre de l'Amazonie, c'est vraiment au milieu de l'Amazonie, quoi. Au centre. C'est une ville qui a explosé dans les années 20 avec le boom du caoutchouc.
Et de l'or, non?
Il y avait non, c'était bon, il y a aussi de l'or.
Ah, le caoutchouc, c'était l'or.
On en parlera plus tard de l'or. Non, ça a été le boom du caoutchouc, ça a commencé comme ça. Et puis alors, c'était la grande explosion, quoi. Ils ont même construit un opéra où les plus grands noms de l'opéra sont venus jouer et tout. C'était une ville de prestige. Puis ensuite, bon, dès qu'ils ont inventé le caoutchouc synthétique, chimique, enfin ouais, synthétique, c'est mort doucement, quoi. C'est que la grande prestigieuse Manaus est devenue une petite ville maintenant d'Amazonie. Il s'y passe plus grand-chose en définitive.
C'est-à-dire, il y a combien ? Il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas ?
Bon, bah, il y a 700 000 habitants, hein, mais c'est vraiment très vaste, elle est très large la ville. Mais le centre même, c'est plus petit que Genève, quoi. Le centre-ville où il y a des bâtiments, des immeubles, des trucs comme ça, c'est tout petit, quoi. Il y a plein de favelas, enfin des favelas. Bon, c'est pas comme à Rio où il y a énormément de favelas, mais il y en a, c'est des petites. Bon, ce qu'on appelle favela au Brésil, c'est les petites maisons en bois faites de tôles et comme ça, que les gens construisent sur des terrains où ils n'ont pas d'autorisation. Ah. Voilà.
Bon, bah, je crois qu'on va écouter un peu de musique, non ?
Ouais, moi j'aimerais bien écouter un petit peu de Vinicius de Moraes. En fait, c'est un petit hommage à Vinicius de Moraes, un personnage que j'aime assez. C'est un chanteur brésilien qui n'a rien à voir avec l'Amazonie, lui il est du Sud. Mais bon, c'est un poète, enfin, c'est un mec génial, moi j'adore. Puis bon, c'est un disque avec Maria Bethânia et puis Toquinho qui est un guitariste merveilleux.
Já passou por essa vida e não viveu. Pode ser mais sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ah, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar-se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber quem não vai poder ter medo de sofrer. Ai de quem não raja o coração, esse não vai ter perdão. Ai de quem não raja o coração, esse não vai ter perdão. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ah, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir.
já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não raja o coração, esse não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Ai, de quem não raja o coração,
on est toujours avec Moreau qui est parti un jour avec son sac à dos et puis ses knickerbockers qui a débarqué de l'autre côté de l'Atlantique au Brésil et qui est allé parti à Manaus qui est une ville qui se trouve dans l'Amazonie et là-bas il a rencontré un ami d'enfance qui en fait était guide dans la jungle, qui s'occupait de promener des touristes, je crois. Et puis, qu'est-ce que t'as fait, toi, après, là-bas ?
Voilà, ouais, ça s'est passé comme ça. J'ai rencontré Jean-Pierre, puis je suis parti avec Jean-Pierre, la première expédition. On a fait une expédition de 12 jours, la première fois. Alors, on est parti un peu chez... D'abord, on a pris un des bateaux de ligne, on s'est éloigné de Manaus. On a voyagé pendant 2 jours.
Vous avez pris des gens avec vous ?
Ouais, bon, alors là, la première fois, on est partis ensemble.
Ah, ouais.
Je suis parti également avec 2 autres amis de Genève, Paul et Thierry. On est partis tous les 3, on était ensemble à ce moment-là. Et puis, on est partis tous ensemble, on est partis 12 jours. Alors, on est partis 2 jours sur un bateau de ligne. On est arrivé dans un petit bled en Amazonie. Puis de là, on a pris un bateau à la rame. On s'est trouvé un grand bateau en aluminium. Puis on est parti, on a ramé pendant 3 jours pour arriver dans un affluent, dans un petit igarapé. Alors pour les gens qui ne savent pas un igarapé, il y a les rios qui sont les grands fleuves, puis les petits igarapés, c'est des petits affluents, des tout petits affluents qui vont pas très loin en général.
Ça veut dire quoi, un tout petit affluent, c'est grand? C'est grand comme le Rhône ou bien...
Ah non, un grand comme le Rhône, c'est un rio, quoi, on appelle ça un rio. Un petit affluent, c'est un truc qui peut aller, je sais pas, c'est jamais très large, quoi. Ça s'enfonce dans la jungle. Quoi. Puis on a pris un de ces petits igarapés, puis on est arrivé dans une famille d'Indiens. On dit c'était des vrais Indiens, mais qu'on appelle des Indiens civilisés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont déjà un peu adaptés, ils ont quelques conforts de la vie occidentale, enfin, ils ont quelques conforts de la ville, puis ils ont déjà eu des rapports avec l'homme blanc, quoi.
C'est-à-dire les conforts de la ville, c'est-à-dire qu'ils ont des vidéos, quadrophonie,
crédit
agricole,
pas du tout, non. Ils ont des casseroles, quoi. Je veux dire, ils ont des casseroles, ils ont du riz. Ils ont quelques outils, ils ont des couteaux, ils ont des trucs comme ça, quoi. Quelques petits trucs de la ville, mais c'est pas vraiment ancré en eux. Ils ont un peu d'habits, bon, ils sont complètement déchirés, leurs habits, enfin bon, tu vois, tu t'imagines, quoi. Et puis bon, depuis là, on a rencontré cette famille, c'est super. Bon, d'abord, quand on est arrivé, ils ont eu vachement peur, parce qu'ils ont toujours très peur, ils se croient toujours qu'on est des garimpos, des garimperos. Puis les garimperos, c'est les chercheurs d'or, quoi. Puis les chercheurs d'or, ils foutent la merde en Amazonie, quoi. C'est eux qui sont en train de décimer les populations indiennes en ce moment, quoi.
Et il y a de l'or là-bas.
Ouais, il y a de l'or partout en Amazonie. Hein. Il y a de l'or partout. Alors bon, le premier rapport, bon, quand ils nous ont vu arriver, déjà nous dans cette grande barque métallique, on a mis 3 jours, on avait des cloques partout, c'était l'horreur. On est arrivé là-bas, puis bon déjà ils voient tout d'un coup 4 blancs qui débarquent chez eux un après-midi avec des sacs, des machettes. Enfin, ils comprenaient rien, quoi. Puis déjà, il y avait encore en plus un Thierry, qui a un grand blond aux yeux bleus. C'était complètement surpris. Tous les enfants qui venaient toucher ses cheveux un peu blonds, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Enfin, les enfants, ça faisait longtemps. Enfin, les adultes, ils avaient déjà vu des blancs. Mais les enfants en bas âge, eux, ils n'avaient jamais vu, quoi. Parce qu'eux, ils sortent jamais de leur igarapé, quoi. Ils y restent jusqu'à assez tard dans leur... jusqu'à assez tard, quoi, avant d'aller à la ville, quoi. Enfin, dans le petit bled d'Amazonie.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent de leur... par exemple, si tu nais comme enfant là-bas... Tu passes tes premières années là-bas, tranquille, isolé du reste du monde. Puis un jour, tu vas partir, quoi. C'est ça, l'histoire.
Bon, bah, disons que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un exode vers la ville, quoi. Il y a l'attrait de la ville. Ouais. C'est que peu à peu, il y a quand même de plus en plus d'habitants à Manaus, quoi. Des gens qui exodent là-bas, qui croient encore au rêve de la ville, quoi. Bon, alors eux, c'était vraiment des Indiens, eux. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas du tout quel âge ils avaient. On a demandé une fois au fils, parce qu'il y avait un... On est retourné plusieurs fois là-bas. Le chef de la petite tribu que là-bas, c'était les Satere Maues, de la région du Guarana. On parlera plus tard du Guarana. Et qui s'appelait Ernesto. Alors, lui, c'est un mec génial, merveilleux. Et puis, C'est avec lui qu'on est parti la première fois dans la jungle, quoi. Alors lui, on est parti, on a marché toute une journée, puis on est arrivé toute une journée dans la jungle. Bon, c'était un peu la surprise, puis l'angoisse, surtout la première fois. C'est que la jungle, quand tu y arrives, déjà avec le grand bateau de ligne, tu te dis, bon, c'est un univers où tu rentres pas. Tu dis, il y a plein de bêtes, mais tu comprends pas pourquoi il y a des gens qui y habitent. Tu te dis, mais ils sont complètement fous d'habiter à côté de cette jungle, les côtes hostiles. T'imagines qu'il y a des serpents tous les 2 mètres, qu'il y a des bêtes sauvages qui vont te sauter dessus, des scorpions, des araignées. Puis en fait, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment démystifier la jungle, parce qu'on en a fait une grande chose. Bon, c'est entre autres à cause d'aventuriers qui sont revenus, qui ont monté des histoires pas possibles. Moi, j'aimerais bien remettre les choses au point ce soir, puis dire que bon, la jungle, c'est pas seulement les serpents, les araignées, les bêtes sauvages, c'est pas du tout ça, quoi. Alors bon, malgré tout, t'as toujours l'angoisse, quoi. C'est-à-dire quand tu rentres la jungle la première fois, bon, d'abord, c'est très impressionnant. D'abord, il y a la chaleur, l'humidité de l'air, je veux dire, c'est presque 100%, et puis la luxuriance de la forêt, quoi. C'est-à-dire tu rentres, c'est t'as l'impression que c'est impénétrable, alors c'est vraiment la machette un peu, ça fait vachement aventurier, c'est vachement bonheur. Et puis bon, tu rentres doucement comme ça, et puis bon, alors c'est surtout pour les yeux, quoi. La lumière, tout d'un coup il y a plus de lumière, quoi. C'est-à-dire que tu rentres, c'est un peu, c'est super obscur, c'est-à-dire que tu pars, c'est le soleil, tu rentres dans la jungle, t'as l'impression de rentrer dans une chambre noire, quoi, presque. Enfin, il faut t'habituer les yeux et tout, tu commences à rentrer, puis alors c'est l'angoisse toujours de marcher sur une bête. Alors, la première fois, c'était l'horreur, quoi. Cette première marche qu'on a fait, qui a duré à peu près 6 heures.
Mais vous êtes parti seul comme ça avec...
Non, alors, on est parti avec Ernesto, hein, comme guide. Hein. Dans la jungle, tu pars pas tout seul. Je veux dire, tu pars
parce
toujours avec un guide.
T'as jamais des cartes ou des histoires non, comme ça. Ouais. Ça n'existe pas.
Pour trouver les cartes, c'est très difficile, quoi. Vraiment très difficile. De toute façon, même si c'est une boussole, bon, tu peux toujours déterminer le nord et tout ça, mais faire des visées, des trucs comme ça, c'est pas possible. C'est vrai que tu pars avec un guide indien. Lui, c'est son territoire de chasse en général. Ce qui fait qu'il connaît, lui, c'est impressionnant, quoi. Au bout de 3 heures, tu lui fais où est la maison, il te fait c'est là-bas, tu fais où est-ce qu'on va, c'est là-bas, il est où le campement, il est là. Lui, c'est tout, quoi. C'est comme nous quand on se déplace dans notre quartier, eux, c'est leur quartier, quoi, c'est leur monde, il connaît tout, quoi. C'est de la folie, c'est vraiment impressionnant. Alors bon, il y a l'angoisse de rentrer tout le temps, de marcher sur quelque chose, c'est vraiment, tu regardes partout où tu marches, c'est super angoissant, quoi. Et puis bon, on est arrivé dans un campement. Bon, là, on a une petite expérience avec un serpent assez sympa. Au bout de 3 heures, j'en viens de préciser, c'était quand même, c'est la première frayeur, quoi. Il n'y en a pas eu beaucoup comme ça. C'est un serpent assez dangereux, un des plus dangereux d'ailleurs. C'était un Sulacaja. Puis bon, c'est un peu par hasard, quoi, que c'est tombé sur moi. Je l'ai vu. Il y a l'Indien qui est passé, il y a Jean-Pierre qui est passé. Puis j'ai vu un truc qui s'est dressé. Alors bon, c'était assez l'angoisse, quoi. Mais là, on s'est un peu reculé, quoi. Puis il y avait Thierry et Paul qui étaient derrière. Eux, ils ont mis carrément, ils se confondaient tellement avec la végétation, ils arrivent tellement à. Tu vois, ils s'adaptent avec l'ambiance naturelle, ce qui fait qu'ils muent, en plus de ça, les serpents, suivant les saisons un peu. Ce qui fait qu'il avait les couleurs des feuilles, tu ne le voyais pas. C'est vraiment un coup de chance, je pense qu'il s'est dressé à ce moment-là. Bon, alors on a coupé un bâton et tout. Jean-Pierre, il a coupé un bâton, il a donné un grand coup dessus, il a foncé sur nous, parti en courant et tout. C'est dit, il est reparti dans l'autre direction. Alors, c'était la première frayeur, ça. Puis on est arrivé dans un campement, puis là on s'est installé dans une espèce de campement de base. C'est-à-dire,
tu dis un campement, qu'est-ce que tu entends par campement?
Par campement, c'est-à-dire que tu construis un petit abri.
Il n'y avait rien, quoi.
Ah, il n'y a rien.
Une espèce de clairière peut-être.
Ouais, c'est une petite clairière, on a défriché un petit peu une clairière et tout. Et puis avec un système de construction comme ils font les Indiens, on s'est construit un petit abri avec des feuilles de palmier et tout pour passer quelques nuits. Puis on est resté 3 jours, dans la, 3 nuits dans la jungle. On a passé 3 nuits, puis on faisait des marches. Puis on était à côté d'un petit igarapé, on se baignait, tout. On allait faire des balades, se baigner, ouvrir des chemins dans la jungle et tout. Puis le 4e jour, on est rentré chez les Indiens. Puis on a passé encore une journée chez eux, une journée, une nuit. Puis le lendemain, on est parti à la rame sur leur petite barque. Ils ont des petites barques creusées dans du bois aquatique, qui s'appelle l'Itabu... C'est du Itaituba. Itaouba. Voilà, c'est de l'Itaouba. C'est un bois spécial aquatique. Dans une petite barre, il faut vraiment pas bouger. Vous avez fait un petit mouvement, t'es tout de suite dans l'eau. Alors on est parti comme ça, puis on est retourné dans la direction de Marouès.
Et avec ces Indiens, vous parliez portugais ou bien?
Bon, alors là, Ernesto, il parlait le portugais. Alors c'est vraiment de constater parce que bon, il y avait son frère et lui qui c'était le chef, puis l'autre c'était un peu le sous-chef, il parlait le portugais parce qu'eux ils avaient des contacts comme. Ils cultivent le guarana. Bon, juste pour toucher un mot du guarana, le guarana c'est un peu comme le ginseng, c'est un produit énergétique, c'est bon pour le cœur, pour le foie, c'est bon un peu pour tout, quoi. Puis bon, si tu demandes aux vieux Indiens ce que ça fait, eux ils disent que ça fait vachement bander, quoi. C'est une anecdote, quoi. Et puis bon, alors eux ce qui fait que comme ils vont à la ville pour négocier un peu ça, puis négocier leur farine de manioc. Ils ont des contacts, ils ont eu des contacts, donc ils ont travaillé pour des patrons. Et
donc
tout.
Ils vendent leur, ouais. leur production. Donc parce eux, qu'ils ont des champs.
Ouais, enfin ils ont des champs, ils ont défriché une partie de la jungle. Ouais. Ce qui fait qu'ils cultivent un peu quelques trucs, puis ils vendent ça quoi, pour un peu d'argent.
Et puis comment ça se fait que Ernesto il soit le chef et puis l'autre il soit.
Bon, parce que lui c'était un peu une espèce de. Bon, eux c'était. Les Satarimawa c'est une grande tribu qui existe près de Manaus, c'est dans le sud de Manaus. Et lui, il avait le rôle de préfet. C'est-à-dire, c'est un peu le préfet d'une région. Et il avait à peu près une trentaine de personnes. C'était un peu le chef, quoi.
Mais le préfet d'une région, tu
comprends pas ?
Si, je comprends très bien, mais je veux dire, est-ce que c'est comparable à un préfet de la Haute-Savoie ou comme ça ?
Ouais, mais c'est un peu ça.
Un mec élu ou comment ça se passe ? Il est préfet. Pourquoi il est préfet ? Parce qu'il est d'une famille ?
Non, parce que tout à fait. Non, c'est tout à fait. C'est des problèmes de... C'est de génération, de génération en génération, ils sont chefs. Je veux dire, son fils, il va être à sa place, il va le succéder. Et le fils de Fonsuvis va le succéder ainsi comme ça. C'est toujours comme ça, c'est toujours le fils du fils. C'est le vieux principe monarchique, en fait. Quoi. C'est tout à fait comme ça. Quoi. C'est le premier fils qui devenait roi.
Quoi.
Ouais, le fils aîné. Et puis lui, il contrôle un territoire immense. Quoi. Puis il est censé... dès qu'il y a un problème, se diriger vers un autre groupe, un autre hameau à la limite de Tapiri, qui sont les maisons de la jungle, puis de régler les problèmes s'il y en a, quoi. C'est un peu son rôle, quoi. Puis nous, on était chez lui. Parce que, bon, nous, on est atterri chez lui comme ça, par hasard. Hein. On a demandé un matero, quelqu'un qui connaissait bien la jungle, puis on nous a dit, si vous continuez à ligaraper là, pendant quelques heures, vous tombez sur Ernesto. Puis voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé là-bas. Alors lui, il parle le portugais. Par contre, alors les femmes, elles parlent rien du tout. Alors là, pour les féministes qui sont à l'écoute, elles peuvent s'estimer heureuses de la situation en Suisse. non, je dis ça avec des réserves. Parce que là-bas, la situation de la femme, c'est complètement différent. Mais elles sont très heureuses à part ça. Mais elles ne parlent pas du tout le portugais. Parce qu'alors, les femmes, elles ne vont jamais dans la jungle. C'est un truc...
Elles font quoi alors ?
Elles cultivent les champs. C'est dur, la vie de la jungle. Hein. Pour la femme...
Elles font des enfants.
Alors ça, ouais. Elles font plein d'enfants. Et puis elle travaille tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire. Quoi.
Et puis les hommes, ils vont chasser.
Bon, les hommes, ils chassent, ils cultivent aussi au champ, ils bossent aussi. La vie de la jungle, elle est très dure, c'est super dur. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard. Bon, ils vivent pas stressés, quoi. Ils vivent quand même assez au ralenti, quoi. Mais ils travaillent beaucoup. Quoi. Puis bon, la jungle, elle est quand même hostile. Quoi. C'est toujours un élément contre lequel qu'il faut se battre, ce qui fait que les gens de la jungle, ils se battent tout le temps. Quoi. Enfin, voilà, quoi.
Ouais, écoutez, un peu de musique. Toujours...
I heard it on the radio, they just won't stop it.
Alors ça c'était James T. Percy qu'on a entendu avec le morceau Die in Disneyland, mourir dans Disneyland. Enfin, après Disneyland, on va revenir en Amazonie, c'est pas tout à fait la même chose. On a donc eu le récit de la visite chez Ernesto et sa tribu. La première visite dans le jungle, premier contact avec les Indiens. Après, vous avez fait quoi?
Bon, alors après, je suis parti encore deux fois. Bon, c'est-à-dire que Jean-Pierre, bon, lui, il emmenait des touristes. Puis il m'a proposé de continuer à travailler avec lui, quoi. C'est-à-dire de l'aider dans les expéditions. Alors, je suis parti encore deux fois avec Jean-Pierre.
Mais explique un peu, là. Tu dis, il est parti avec des touristes.
Ouais, c'est-à-dire, bon, nous, on faisait du tourisme réceptif à Manaus.
C'est quoi? C'est le troisième âge qui vient à Manaus?
Mais non, pas du tout. Non, c'était des routards, des mecs comme toi et moi, quoi. C'est-à-dire que bon, on allait dans la rue et puis bon, on voyait des jeunes passer, des routards, un sac au dos. C'était les gens qui venaient avec nous, quoi. C'est des mecs bon, qui n'ont pas besoin de la grande sécurité et tout. En plus de ça, bon, un truc qu'il fallait préciser, que nous, on n'avait aucun sérum, on n'avait rien. Tu vois, on avait les médicaments suisses qu'on avait emmenés, c'est-à-dire Fonzida, enfin, je ne vais pas donner des noms, quoi. Tu vois, des trucs vraiment de premier secours, mais qui ne te soignent pas en cas de morsure de serpent ou de trucs. On n'avait rien, on n'avait aucun sérum, rien. Donc à ce niveau-là, c'était l'aventure. C'est pour ça que nous, on proposait des voyages d'aventure. C'est-à-dire que bon, on n'offrait aucune sécurité, quoi. Il pouvait arriver n'importe quoi, nous, on n'était pas garants. On les proposait simplement de les emmener dans des endroits qu'on connaissait, quoi. Enfin, en l'occurrence, bon, que Jean-Pierre connaissait au départ, quoi. Et puis bon, on les branchait sur l'histoire voyage en Amazonie et tout. Mais ça, nous, les prix qu'on proposait par rapport aux agences, c'était super cher. C'était quelque chose comme $150 les 3 jours. Nous, avec $150, tu vois, ils partaient 6-7 jours, ils partaient. Ce qui fait qu'ils préféraient partir avec nous. Même s'ils n'étaient pas prêts à mettre $150 pour partir 3 jours, ils étaient d'accord de le faire pour partir 7 jours. Parce que 7 jours, tu pouvais aller faire assez loin, faire 3, en tout cas 3 jours dans la jungle. C'est que ça devenait intéressant, quoi. On se battait un peu comme ça, alors j'ai commencé à l'aider, on est parti encore deux fois ensemble. Puis ensuite, bon, ben, il y avait un peu des problèmes de fric, moi j'étais parti avec vraiment peu d'argent. Ce qui fait que, bon, ben, je me suis un peu lancé, pas à la mer, mais lancé à la jungle. Et puis j'ai dit, bon, ben, je vais essayer d'emmener des touristes, quoi. Parce que bon, c'était vachement risqué, c'était super gonflé, quoi. Parce que je connaissais rien du tout, en fait. Et puis la quatrième fois, je suis parti seul, quoi. C'est-à-dire bon, j'ai trouvé des touristes, j'ai trouvé des mecs, j'ai tombé sur deux Suisses allemands. D'ailleurs, je sais pas, ouais, ils doivent être déjà à Zurich, là. C'était Youp et Sophie. Puis je suis parti avec eux. Bon, alors j'ai fait le gros baratin, c'était ça. Je leur disais bon, voilà, que ça faisait vachement longtemps que j'étais en Amazonie et tout. Ça faisait 4 ans que j'étais là. Puis bon, à l'époque, on avait fait pas mal de photos. On nous avait envoyé des photos, on avait des photos. Ce fait que, genre, on avait un support, quoi. On pouvait leur montrer où on partait. Puis c'est ce que j'ai fait, quoi. Alors je leur ai montré où on partait. Enfin, en l'occurrence, il y avait toute l'expédition pour d'Ernesto qui était déjà toute photographiée, expliquée. C'est que c'était bien détaillé, qu'on avait un truc de base qui était bien, quoi. Alors j'aurais proposé l'expédition chez Ernesto, et puis ils ont accepté. Ça fait qu'on est parti, je suis parti avec eux, puis on est parti 11 jours. Puis on est parti chez Ernesto, on a fait 5 jours de jungle, enfin toujours un peu dans le même style que la première expédition, quoi. Mmh. Bon, là à l'époque, au tout départ, on faisait du bateau stop, quoi, parce que bon, le seul moyen de locomotion dans la jungle, c'est les moyens fluviaux, c'est-à-dire bon, les bateaux. Sinon, il y a l'avion. L'avion, c'est beaucoup trop cher. C'est des petits pipeurs et tout. Il n'y a pas d'épices partout. Ça fait que tu pars toujours en bateau. En fait, quand on arrivait à Maouès, c'était le petit bled où on arrivait. C'est un super petit bled, vachement chouette. Depuis là, on faisait du bateau stop. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des bateaux. C'est entre autres des Indiens. Enfin, c'est des caboclos, ce qu'on appelle des natifs. D'ailleurs, ils sont déjà un peu mélangés avec la population du Nord-Est. C'est plus vraiment des Indiens, tu vois. Et puis, eux, ils se déplacent tout le temps avec leur petit bateau. On allait vers eux et on leur demandait s'ils allaient dans telle direction, quoi. S'ils partaient vers. Le Parika de Maouès et tout ça. Et puis bon, s'ils partaient dans la direction, on partait avec eux. On leur proposait, on faisait un marché avec eux. On disait, bon, voilà, je te donne tant et tout. On est 4, on aimerait aller là-bas. Puis ils disaient, ok ou non, quoi. Puis bon, en général, il n'y avait pas de problème. Ils nous emmenaient. Puis ils nous laissaient à l'embouchure. Ils nous laissaient à une embouchure. Puis là, depuis l'embouchure, c'est à nouveau la chasse pour trouver un autre bateau. Alors là, bon, des fois, on a trouvé d'autres bateaux qui nous emmenaient jusqu'à chez Ernesto. Malgré que c'était lui, il était dans un igarapé. Il y avait 2 heures dans l'igarapé, il n'y avait personne. Tu vois, il n'y avait que lui qui habitait au fond de l'igarapé. C'est un genre d'igarapé, si tu ne vas pas voir, tu as l'impression qu'il n'y a jamais personne qui habite. Ça, c'est dingue, parce que des fois, tu prends des igarapés pendant des jours et des jours. Tu rames et tout, tu dis, bon, on va découvrir personne. Puis tout au fond d'un igarapé, au bout de 5 jours, tu rends compte qu'il y a des gens qui habitent au milieu de la jungle. C'est vraiment impressionnant. Bon, là, en l'occurrence, c'était que 2 heures, tu vois, c'était pas très loin de Maouès en plus. on avait système, quoi. Ou bien alors, c'était tout le temps du bateau seul, alors c'était de l'attente souvent, il fallait attendre un bateau qui passe et tout, faire des signes, l'appeler et tout, tu vois, puis ils sont pas toujours d'accord, ils te voient pas toujours, enfin. Et puis ensuite, par la suite, quand moi j'ai fait cette expédition, avec Jean-Pierre, on avait déjà acheté un petit bateau. On avait un petit bateau, quoi. C'était le beau-frère d'ailleurs, le beau-frère Ernesto, qui habitait dans une garapée un peu plus loin, qu'il avait fabriqué. Alors, il prenait de l'eau dans tous les sens, c'était l'horreur. Puis on avait acheté un petit moteur, un PKP. À deux, donc les dernières heures de navigation, c'était assez pénible. Ensuite, on l'a recloué avec un clou. On est reparti quand on est parti de chez Ernesto après les quelques jours de jungle. Le bateau, le moteur a serré, quoi. Il y a un débouchon de l'huile qui s'est barré, il y a tout l'huile qui est sorti. Puis bon, on a vu l'huile, quoi. J'ai rebouché et tout, on est allé au bord de la rive et tout, j'ai taillé un bout de bois, je l'ai mis dans le truc, mais il n'y avait déjà plus d'huile. C'est qu'on a serré, quoi. Alors là, pour retrouver l'embouchure, pour repartir l'embouchure, on est allé sur le bord, pousser le bateau, parce qu'en plus de ça, on n'avait qu'une rame. Alors ça, c'est des heures, pousser le bateau avec les pieds dans l'eau. C'était l'horreur, quoi. Puis bon, ensuite, on a attendu toute une journée pour qu'un bateau passe, aucun bateau nous passait. Ensuite, on a vu un bateau au loin, tout, parce que ça, c'est les embouchures, c'est immense des fois. C'est plus large que le lac Léman, quoi, hein. Certains rios, quoi. Le rio Amazonas, des fois, il fait, pendant la période des pluies, il fait 17 km de large. C'est-à-dire, quand t'es au milieu, tu vois pas les bords, quoi. Alors là, c'était une embouchure qui était hyper large. Puis on est parti un peu, on voyait un bateau au loin, on est parti à la rame, comme des fous, en espérant l'attraper, on l'a pas attrapé. Fait qu'on s'est mis sur une autre berge complètement plutôt un kilomètre de l'embouchure, on s'est mis sur une berge et tout. Puis là, par hasard, il y a une tempête monstrueuse qui se levait. Il y a un bateau qui est passé, un bateau qui chargeait du bois. Et puis, il s'est arrêté, heureusement. Puis on a pu rejoindre Maouès. Enfin, c'était pas mal. Comme première expérience, on a eu que des problèmes. C'était génial, quoi. Les gens, de toute façon, plus c'est galère, c'est ça pour les Indiens ne comprenaient jamais, quoi. Parce que nous, plus c'était galère, plus il pleuvait, plus c'était déj, plus il fallait vraiment galérer, c'est-à-dire dans l'eau, dans la terre, faire des trucs vraiment où tu vois, t'as de la terre partout, il fait froid et tout. Plus nous on se marrait, plus on prenait notre pied, quoi. C'est là que t'as l'impression de vivre une aventure. T'as quand tout se passe bien, que t'as le beau temps, t'es en train de ramer tranquille. Bon, bah, tu prends du bon temps, mais t'as pas l'impression que c'est une aventure. Mais quand tu galères, tu dois vider le bateau, décharger le bateau et tout, passer le bateau sous des troncs et tout. Enfin, voilà.
Et puis là, chez Ernesto, ils étaient contents de vous accueillir tout le temps, ou bien,
bon, bah, la première fois, bon, mais...
Ou bien, c'était quoi, les rapports? C'était des rapports, genre, complètement hospitaliers, ou bien...
Ouais, bon, la première fois, tu vois, la première fois, on avait installé...
Vous leur apportiez quelque chose, ou vous leur filez de la thune, ou
non,
je sais
non,
pas,
on leur filait jamais de la thune, quoi. Ce qu'on faisait avec eux, c'est qu'on faisait un peu du troc, quoi. C'est-à-dire que, bon, eux, ils faisaient de l'artisanat, pour eux, d'ailleurs, quoi. Et puis, bon, ils faisaient toujours des petits objets. Les enfants, ils sculptaient des trucs. Les femmes, ils faisaient des corbeilles, des paniers, quoi. Mais pas pour y vendre, ils faisaient comme ça, utilitaire. Et puis, bon, effectivement, quand on arrive avec les gens, ils avaient toujours un peu l'envie des objets. Alors ça, c'est une situation qui était assez désagréable, que moi, j'aimais pas du tout. Ça, par la suite, Ernesto, je suis plus retourné. Parce que ça commençait à trop s'installer. Quand on arrivait, il voyait des montres, le gosse, il voulait une montre. Puis, il en a pas du tout besoin, quoi. D'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle. Un jour, il y a un touriste qui lui a offert une montre. Alors bon, c'était... Alors, quand il lui a offert cette montre, il avait une montre, ses montres à numéro et tout, qui n'allait pas dans l'eau. On lui a bien dit, ça va pas dans l'eau et tout. Puis quand le gosse... Moi, j'ai jamais vu un gosse aussi heureux de ma vie, quoi. Il a pris cette montre, c'était le... T'avais l'impression de lui donner le monde, quoi. Vraiment le monde dans ses mains, quoi. Il était complètement... Il est parti, il est complètement parti. Le soir, il est resté un peu avec nous. Puis d'un coup, il s'est levé, il est parti. Il partait toute la nuit, puis il est allé chasser le crocodile, quoi. Il a chassé toute la nuit le crocodile, il a chassé un crocodile de 3 mètres. Oh, mais il est arrivé avec son crocodile de 3 mètres. Il n'avait pas dormi de la nuit tellement il était excité, quoi. Bon, 3 jours après, il se baignait avec la montre, c'était foutu, quoi. Donc, c'était bon, effectivement, tu vois, le fait d'apporter des objets comme ça, c'était assez malsain. Tu avais l'impression de leur amener des trucs dont ils n'avaient pas besoin. Par exemple, l'heure, ils vivent avec le soleil, ils n'ont pas du tout besoin d'heure. Mais ils sont attirés par tous ces petits objets comme un couteau, etc. Alors ce qu'on essayait de faire, malgré tout, c'était de leur amener des trucs pas trop, tu vois, modernes, enfin des trucs qui sont superflus, du superflu. C'est-à-dire qu'on amenait souvent du tissu pour les femmes, on amenait du riz, on amenait des trucs comme ça, quoi. Puis les gens, bon, j'ai emmené pas mal de Suisses, alors eux, ils échangeaient des couteaux suisses. Puis bon, ils avaient des flèches, alors ils échangeaient contre des flèches et tout, puis des peaux de serpents, des peaux de crocodiles, enfin tu vois, des trucs comme ça, où les touristes, ils, bon, enfin les touristes, j'étais aussi un touriste, ça veut dire. Les gens qui venaient, quoi, ils flashaient bien, quoi. C'était un peu la Libye, quoi. J'étais en Amazonie, j'ai une peau de crocodile, quoi. Alors ils flashaient bien avec des trucs comme ça, quoi. Voilà. On a un peu de musique quand même pour eux.
Derrière le parking qui est désert la nuit, à côté de la voie ferrée dans une impasse étoile, il y a un petit bar au papier plein journal, papier plein journal. Le vin pique la gorge, et le pain des sandwichs, et plus mou qu'une éponge, bien plus mou qu'une éponge. C'est pas un bel endroit, mais ça suffit pour boire un canon, deux canons avant d'aller se coucher. Un canon, deux canons avant d'aller se coucher. Les vendredis soirs, à peu près vers 7 heures, on l'entend arriver. Déjà depuis le parking, il fait voler la porte. Puis il entre en hurlant, salut la compagnie, salut la compagnie. Avec les yeux gonflés sur sa gueule de clochard, cicatrice au menton, mouchoir comme un foulard. Il s'appuie au comptoir et puis commence à boire, en racontant une histoire, celle du loup dans la bergerie, celle du missionnaire dans la havre. Il a vu toute la terre, il a fait tous les pays, il dit qu'il a été légionnaire. Alors on l'appelle comme ça, on dit tiens la légionnaire. Il dit pas l'Indochine, il dit qu'il a fait l'Indo, puis aussi l'Algérie. Il raconte que sa vie, et puis toujours la même histoire, son histoire, celle du loup dans la bergerie, celle du missionnaire accroupi, il a son lit. Quand il est sous, encore un peu plus sous, lourd, il mélange tout. Dans sa voix éraillée, il se met à brailler en faisant le tour des tables. Il veut vendre des poèmes qu'il a écrit lui-même sur des feuilles de papier mal renéotypées. Et ça raconte encore toujours la même histoire, celle du loup de la troisième dynastie. Il mange un missionnaire accroupi tout gris dans une blanchisserie à côté de la grande bergerie. Mais ça fait rigoler tous les buveurs fatigués en sortant du boulot. Et même si on se fout de lui, on lui paye une tournée pour qu'il raconte encore et encore l'histoire du loup dans la bergerie, celle du missionnaire ébloui. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Zone.
Est-ce qu'on vous donne le numéro si jamais ça vous dit d'appeler, hein?
Si vous avez des questions à poser.
Alors, c'est le 023 depuis la Suisse, 50 40 51 41. Alors, je le répète, 023 depuis la Suisse, 50 40 51 41.
Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu veux raconter encore? T'es parti.
Bon, bah, alors, ensuite, les expéditions, ça a continué, quoi. Alors, au départ, bon, j'ai pas pris beaucoup de risques. La première fois, j'ai pas pris beaucoup de risques. Je suis allé chez Ernesto pour connaître un peu, bon, pour savoir un peu comment m'y prendre. Bon, puis j'ai fait des. Bon, tu fais toujours un peu des erreurs, tu sais. Il faut être vachement psychologue avec les gens qui viennent avec toi. Et ensuite, par la suite, bon, moi, comme je connaissais rien de l'Amazonie, mon plan, c'était de découvrir avec eux, quoi. Alors, ce qui fait que moi, toutes les autres expéditions, je suis chaque fois parti dans une destination complètement différente, en proposant vraiment de l'aventure, c'est-à-dire qu'on partait sans savoir où on arrivait, avec les risques, tu vois, les risques que tu peux courir, c'est-à-dire que tu peux arriver dans un endroit où, bon, bah, il n'y a personne, il n'y a rien, quoi.
À part ça, une question qui me vient à l'esprit, c'est que c'est donc une contrée complètement plate.
Ouais. Là, autour de Manaus, c'était complètement plat. Ensuite, bon... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun relief, hein, pratiquement aucun.
Il n'y a pas beaucoup de courant non plus.
Non, il y a très peu de courant. Bon, il y a des rapides, hein, bien sûr. Tu trouves des endroits où il y a des cascades, des rapides. Mais disons que c'est pas
donc
très,
même,
très violent.
Je veux dire, pour aller à contre-courant, tu peux, en ramant, tu peux y arriver.
Ouais,
quoi.
Tu y arrives. Des gens qui savent ramer comme il faut, ouais, tu y arrives. Ouais. Mais bon, pour trouver des sites plus montagneux, il fallait aller plus vers le nord, vers le Venezuela. Ça, j'ai fait une expédition là-bas. Alors là, c'est vraiment les montagnes. Là, ça, c'est impressionnant. La jungle avec les montagnes, les cascades, ça, c'est vraiment beau. Bon, par la suite, on a fait d'autres expéditions en partant plus vers le nord. Et là, un rio que tous les gens qui sont au Brésil connaissent bien, c'est le Rio Negro. Là, c'est le Rio Negro, c'est le rio qui se jette dans le rio Amazonas. Et là, c'était vraiment tout au nord du Brésil, c'est-à-dire direction le Venezuela, en fait. Puis là, on est parti, on a fait plusieurs expéditions, j'ai fait plusieurs expéditions. Alors là, vraiment aventure, c'est-à-dire que on regardait tous ensemble, on disait où on a envie d'aller, puis on faisait tac, on mettait le point sur la carte, puis on y allait, quoi. C'est-à-dire sans savoir où on arrivait, je veux dire, plus en plus, là, les cartes, on parlait des cartes tout à l'heure, hors antenne. Les cartes, il y a les missions qui sont notées, mais bon, certains villages, les villages assez importants malgré tout, fait que quand tu pars dans un igarapé ou un rio, tu sais jamais si tu vas tomber sur des habitants, quoi. C'est toujours un peu le
risque.
Mais
il y a quand même sur les cartes, il y a quand même marqué les fleuves, enfin le fleuve, les rios et puis
les rios, ils sont marqués, les grands rios, ouais. Les grands affluents, mais les tout petits igarapés, il y en a des millions, je veux dire. Dans le Rio Negro, c'est des millions de petits igarapés.
Et t'as jamais eu peur de te perdre là-dedans, dans toute cette flotte, enfin. Bien, tu te repères bien, puisque
non, mais
toujours
tu te repères
le courant
quand même
qui
assez
descend.
Bien.
Enfin.
Voilà, exactement, c'est le truc. D'ailleurs, quand tu te perds dans la jungle, c'est un truc à faire, quoi. Quand tu te perds dans la jungle, il y a un des trucs à suivre, c'est trouver un cours d'eau. Puis même si tu trouves un tout petit filin d'eau, tu regardes dans quel sens va le courant. Automatiquement, tu arriveras dans une rivière. La rivière t'amènera à une rivière encore plus grande, encore plus grande, jusqu'à ce que tu arrives dans le rio, quoi, automatiquement. Donc c'est un moyen de t'en sortir. Encore faut-il partir dans la bonne direction, quoi. Sur quelle direction il part. Enfin, il faut voir, hein, si c'est un fleuve qui part complètement dans une autre direction opposée, limite, tu trouveras personne, hein. C'est toujours un peu le risque, quoi. Et puis, bon, alors nous, ce qu'on a fait plusieurs fois, c'était de partir un peu comme ça à l'aventure. Les plus intéressantes, c'était partir à les expéditions de survie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui voulaient vraiment apprendre à vivre comme les gens vivent dans la jungle. C'est-à-dire qu'on partait avec le strict minimum. On est parti des fois, on avait quand même 2 kilos. On est parti une fois à 4, on avait 2 kilos de riz, 1 kilo de sel, 2 kilos de sucre, 1 kilo de café. Rien d'autre. Alors des hameçons et puis un filet, quoi. Puis alors là, c'est tous les jours, tu dois apprendre à te procurer ta nourriture. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est super. Enfin bon, des fois, tu crèves la dalle parce que la pêche en Amazonie, contrairement à tout ce qu'on peut penser, c'est très dur, quoi. Il y a des horaires vraiment, il y a des heures particulières pour pêcher. Tout le monde croit que tu mets un hameçon avec des poissons carnivores, ça mope, c'est pas du tout vrai, quoi. Il y a des heures vraiment particulières, quoi. Puis pour ça, les Indiens, ils sont vraiment bizarres parce qu'ils te disent jamais, quoi. Ils vont pas, tu sais, ils disent pas les conseils. Ouais, mais tu pêches, chasseur light. Ils te laissent faire, ils te laissent toujours faire ton expérience, c'est-à-dire. Ils te disent jamais rien, non, ils sont pas là derrière toi, non, fais pas ça. Ils te laissent tout faire, quoi. Ils te font faire ton expérience, quoi. Ça, bon, d'un côté, c'est bien, quoi. Mais pour la pêche, c'était pénible. Moi, j'ai mis plus de 6 mois, il m'a fallu plus de 6 mois en Amazonie pour apprendre pour choper des poissons. Je chopais rien, quoi. Puis c'est vraiment des heures très particulières. C'est à la levée du jour. Alors là, ça marche bien. Mais c'est quoi? C'est toujours une heure, quoi. Vraiment, quand le soleil se lève.
Il se lève à quelle heure, le soleil?
Il se lève à 5h, généralement. Parce que bon, là, il n'y a pas de saison. Hein. Le soleil se lève toujours à la même heure, il se couche à la même heure. Il se lève à 5h, il se couche à 6h. Hein. Ça ne change pas, c'est toute l'année comme ça. Et puis, le soir, quand le soleil se couche, alors là, c'est génial, pendant une heure. Vous savez, quand il se couche vraiment, quand il commence à descendre derrière la forêt, alors là, c'est... Puis quand l'obscurité s'installe, là, c'est génial, pendant une heure. Ensuite, plus rien, quoi. Ça ne mord plus, quoi. Puis ils sont malins, les poissons. Ils sont vraiment malins, quoi. Quand ils voient, il y en a 2 ou 3 qui se font attraper de leurs copains, ils viennent plus, quoi. Puis ensuite, pendant la nuit, quand la lune tombe, quoi. C'est-à-dire que la lune, elle tombe, bon, ça dépend, hein, ça dépend l'heure. Après que la lune soit tombée, t'as vraiment l'obscurité l'obscurité, c'est la nuit noire. Et là, c'est là que tous les animaux de la jungle sortent. Vraiment tous, quoi. Et c'est là qu'on va chasser, quand on va chasser la nuit, quoi. Alors ouais, bon, on peut parler de la chasse, on peut enchaîner sur la chasse de la nuit. Alors ça, c'est impressionnant. Ça, moi, j'ai fait ça deux fois. Alors là, c'est vraiment... Bon, d'ailleurs, tous les Indiens ne partent pas chasser la nuit. C'est suivant les régions. Parce que bon, il y a des régions où il y a beaucoup de serpents, il y a beaucoup de sales bêtes, et d'autres où il n'y en a pratiquement pas, quoi. Hein. Et puis, bon, par exemple, chez Ernesto, c'était un endroit où il y avait particulièrement beaucoup de serpents. On rencontrait vraiment pas mal de sales bêtes. Là, par exemple, Ernesto, lui, il ne marchait pas dans la jungle à pieds nus. Hein, il marchait avec des bottes. Par contre, dans d'autres régions, comme le Rio Negro, certaines régions du Rio Negro sont plus calmes, là, les Indiens, ils sont à pieds nus, quoi. Ils marchent à pieds nus dans la jungle et tout. Alors, partir la nuit, c'est assez impressionnant, parce que, bon, ils ont un fusil, hein, en général. C'est rare, quand même. Il y a les tout vrais Indiens qui chassent avec les arcs et les flèches, quoi. Sinon, ils ont quand même toujours un fusil. Même s'ils chassent encore à l'arc, ils ont quand même un fusil pour chasser le gibier. Alors, tu pars la nuit, une fois que la lune est tombée dans la nuit noire, ils ont juste une lampe de poche. Puis, ils éclairent, toi, tous les... Tu pars vraiment dans la jungle, comme ça, dans la nuit noire. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, il n'y a pas de chemin tracé. Tu pars, puis ils éclairent tous les 20-30 mètres, quoi. Puis ils courent dans la jungle, ils vont hyper vite, ils marchent sur les racines, ils sont à pieds nus, ils ne font pas de bruit et tout. Puis toi, tu es derrière, tu essaies de les suivre. Tu cours pratiquement. Dans la nuit noire, tu ne vois rien, quoi. Puis il y a toujours l'angoisse de marcher sur un serpent, un truc comme ça. Parce que comme ça, c'est l'heure où tous les animaux se lèvent, quoi. Puis eux, bon, ils chassent à l'oreille, tu vois. Ils entendent les cris d'animaux, ou bien comme ça, en cherchant un peu dans le vague. Alors c'est vraiment, tu marches 30 mètres et tout, il s'arrête, il allume sa lampe, c'est vraiment, il allume sa lampe 3-4 secondes, quoi. Il balaye un peu devant, il regarde, la claque, puis il repart. Comme ça. Alors tu les suis et tout. Puis bon, quand il trouve l'animal, il est paralysé par la lumière. Hein. Tous les animaux, quand tu leur braques une lumière dessus, ils restent complètement paralysés, ils ne savent pas de fuir. C'est qu'il a tout le temps d'ajuster, puis de le tirer. Quoi. Ça se passe comme ça. Alors voilà pour la chasse dans la nuit. Donc, ça c'est flippant, ça fait vraiment très 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 peur. Ça, tu te dis, mais alors chaque fois, mais une peur, les deux fois, mais... je me disais, mais dans quelle histoire je me suis embarqué. Même si t'es habitué, t'as commencé à t'habituer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'arrêtes même un peu de regarder par terre, tu te dis, bon, bah, t'en rends compte de temps en temps, ça te fait, chaque fois au moment où tu commences à te relâcher ton attention, t'as toujours une histoire qui te tombe dessus. Mais malgré tout, bon, tu commences à prendre confiance, quoi. Tu te dis, bon, il y en a vraiment pas autant qu'on le dit. Mais quand t'es dans la nuit noire et que tu vois pas, même si t'as envie de regarder par terre, tu vois rien. Là, c'est vraiment l'angoisse la plus totale. Tu sais pas où tu vas aller. Enfin, voilà. Quoi. Et puis bon, il y avait les expéditions survie. Alors ça, c'était bien. Parce qu'on partait vraiment avec le strict minimum. Tu vois, les habits, au niveau habits, on partait le moins chargé. On partait sans rien. Parce qu'il y avait les expéditions normales. On prenait quand même des boîtes de conserve. On prévoyait quand même, en tout cas, une bouffe par jour. Avec du riz et puis tu vois, de la viande, du cassoulet, des trucs comme ça. Pour assurer, quoi. Et puis sinon, on partait sans rien, comme j'ai dit, avec 2 kilos de riz, un truc comme ça. Puis là, c'était bien parce qu'il fallait, il fallait pêcher. Quoi. Alors, des fois, bon, quand vraiment on était trop dans la dèche, on s'arrêtait chez des Indiens. Puis on échangeait un petit peu de sel contre 2-3 poissons, histoire de manger. Parce qu'on était tellement nuls en pêche. Au début, on n'attrapait rien. Quoi.
Ouais.
Bonjour, on va passer un petit morceau de musique. Hein.
Thank you.
Bon, alors, c'est ces expéditions de survie, par exemple, ça a duré le temps, vous partiez un après-midi ou bien...
Je t'adapte.
Ou bien vous partiez quand même plus longtemps.
Non. Les expéditions...
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vous rencontré des gens? Comment ils vivaient, ces gens, etc. Parle-moi un peu de tout ça, s'il te plaît.
Bon, ben, on partait minimum... le minimum qu'on partait pour les expéditions de survie, les expéditions assez loin, c'était minimum 15 jours. On partait pas moins de 15 jours, parce que déjà, si tu pars assez loin, tu fais déjà, en tout cas, 2 jours de bateau de ligne, 2 jours et demi de bateau de ligne pour monter, tu mets 1 jour et demi pour descendre, hein, parce qu'évidemment, une fois tu montes le courant, une fois tu le descends, tu mets en tout cas 2 jours et demi de bateau de ligne. Ensuite, il faut encore compter si tu vas aller si loin dans la jungle, puis rencontrer des gens qui ne voient pas souvent, des gringos passer. Quoi. Il faut compter, tu vois, 3-4 jours de rame, quoi. Ce qui fait qu'en général, c'était minimum 15 jours. Ce genre d'expédition, moi, j'ai toujours fait des expéditions, en général, elles duraient 20, 25 jours, voire un mois. Quoi. Ça partait vraiment longtemps. Quoi. Puis alors, bon, le premier contact avec les Indiens, c'était un peu comme avec Ernesto, c'est-à-dire qu'il y a toujours la peur, quoi, que tu sois un chercheur d'or. Toujours. Quoi. Ils croient toujours qu'on est des garimpeiros, quoi. Ils croient toujours qu'on vient chercher de l'or, puis qu'on va foutre la merde chez eux, quoi, qu'on va les chasser de là. Donc, le premier contact est toujours très froid. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien où, toi, comment... À quoi s'en tenir, quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? C'est un peu comme si chez toi, dans ton appart, tout d'un coup, t'as 3 Indiens avec des flèches et tout qui débarquent, qui sonnent chez toi, puis qui disent qu'est-ce que vous, mec, vous venez chercher quoi et tout, puis qui te répondent ouais, on vient voir, on trouve vachement beau, vous habitez, c'est super, la jungle, enfin c'est super, votre immeuble, votre quartier, on adore, le parking souterrain, il est sale pied, là-bas on aimerait bien le visiter, tu nous emmènes, quoi. C'est un peu ça. On arrive un peu comme ça, eux, ils comprennent pas très bien, ils sont tellement habitués à où ils habitent qu'à la limite, ils perdent un peu la notion de la beauté, tu vois. Pour eux, la jungle est quand même cruelle, elle est quand même difficile. C'est vrai qu'ils avaient toujours un peu peur, qu'est-ce qu'on vient faire, puis nous, qu'on leur disait, mais non, nous, on vient voir, quoi. On vient admirer la jungle, on vient...
Ils pensaient quoi de vous? À part qu'ils avaient peur, ils pensent...
Au départ, ils étaient toujours un peu surpris, puis quand on passait la première soirée... Moi, je leur expliquais, quoi, toujours. Et parce qu'en général, bon, c'était quand même des caboclos chez qui on arrivait, donc ils parlaient le portugais. On leur expliquait, quoi. Puis bon, moi, Jean-Pierre, il a fait quand même pas mal d'expérience. Puis lui, il savait parler aux gens de la jungle. Il avait appris comment leur parler, quoi. Il savait très bien comment leur parler. Ce qui fait que Jean-Pierre m'avait transmis ça. Ça fait que je savais comment les prendre, comment leur parler, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux, moi, j'étais vraiment amoureux de la jungle. Je veux dire, c'était de la folie, quoi. Tu sais, la jungle, moi, je dis que c'est comme une dope, quoi. C'est vraiment comme une dope, c'est-à-dire quand tu commences à y aller dans la jungle, t'as tout le temps envie d'y retourner. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'y suis allé une fois, j'avais qu'une envie, c'était de retourner une deuxième fois. Puis au bout de la 20e fois, j'avais autant envie que la première d'y retourner, tu vois. C'était vraiment ça, parce que tu découvres chaque fois tellement de choses nouvelles, tellement de choses différentes. C'est fait que bon, eux, ils aiment la jungle, hein. Ils aiment où ils habitent, ils sont vraiment fondamentalement heureux, ces gens-là. D'ailleurs, moi, c'est des gens... C'est un jour j'ai envie de me réfugier, parce que j'en ai marre de la vie, de la ville, j'en ai marre de tout ça. C'est en Amazonie que je vais me réfugier. C'est des gens tellement purs, qui ont des valeurs très simples de la vie. Nous, ça devient tellement hypocrite, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut plus se tenir à un sourire, un clin d'œil. Alors qu'avec eux, une embrassade, t'embrasses quelqu'un, tu lui souris et tout, ça a beaucoup d'importance. C'est très vrai pour eux, ce genre de choses. Puis bon, partageant avec eux l'amour de la jungle, tu vois, puis comprenant leur mode de vie, moi je partageais complètement leur histoire, j'étais vraiment dans leur histoire jusqu'au bout. C'est fait qu'ils comprenaient assez vite, puis ils se rendaient compte qu'on n'était pas des garimpeaux, quoi. Puis ouais, bien, on partait dans la jungle et tout. Plus c'était galère, plus on
parce
se marrait.
Parce que les chercheurs d'or, ils sont allés là-bas, ils y vont toujours, et puis qu'est-ce qu'ils font?
Le problème des garimpeaux, c'est qu'ils vont toujours plus loin dans la jungle. Parce que bien entendu, ils cherchent de l'or, ils trouvent de l'or à un endroit, ils exploitent jusqu'au bout.
C'est-à-dire, ils exploitent comment? Industriellement ou bien...
Ouais, bon, maintenant, c'est à l'époque du manuel, ça fait quelques années que c'est terminé. Maintenant, il y a des machines assez bon marché qui sont apparues sur le marché, des pompes électriques, tu vois, qui pompent l'eau, la terre et tout ça.
C'est quel genre de gens qui... C'est des compagnies ou
alors,
c'est des...
Non. Il y a beaucoup d'individus comme ça qui partent à l'aventure. Puis il y a déjà un mec qui a acheté une machine, puis il rentre dans l'équipe, quoi, c'est ça. Mais des gens vraiment de tout le Brésil, même des gens de Sao Paulo, de Rio de Janeiro, des gens qui sont un peu dans la dèche dans ces grandes villes, qui partent à la recherche de l'or. Tu sais, il y a une fièvre de l'or.
Mais là-bas, toi, ce qui te faisait vivre, ouais, toi, ce qui te faisait vivre, c'était le tourisme, en fait.
Ouais, bon, moi, les gens, ils me payait, quoi. Ouais. C'était génial parce qu'ils payaient. Bon, je gagnais un peu de sous, puis en plus, bon, je flashais autant qu'eux parce que je connaissais rien, quoi. Et puis, moi, bon, toi, les Gary Impero, ouais, ça c'est horrible, quoi. C'est l'attrait, c'est la fièvre de l'or. Quoi. Puis ça, au Brésil, il y a vraiment un mouvement de la fièvre de l'or. Heureusement que là où il y a de l'or, il y a de la malaria, quoi. Ça, les Indiens, ils disent que c'est la justice de Dieu. Ils disent, parce que bon, ils sont très catholiques, hein. C'est bon,
c'est indien.
Ouais, ouais. Ça, c'est un sujet que j'aimerais pas trop toucher parce que ça, on peut en discuter pendant des heures. Il y a eu.
Carrément.
Ouais. Ah, ouais, ouais, c'est terrible. Quoi. Il y a plein de missionnaires, on compte plein de missionnaires, des Mormons.
Parce que les Blancs, en fait, ils sont depuis longtemps aux Nations-Unies ou bien.
Ouais, ça fait pas mal d'années, quoi. Puis ils vont toujours plus loin, quoi. Ils catholicisent complètement les. Tu vois, il y a les catholiques, il y a les baptistes, il y a les Mormons. Enfin, ils essayent complètement, ils les endoctrinent complètement avec des religions qui les regardent pas, quoi. Qui n'ont rien à voir avec leur propre culture. Bon, c'est malheureux, quoi, mais bon, maintenant, les caboclos, en tout cas, ceux qui sont déjà mélangés avec la population du nord du Brésil, eux, ils sont complètement catholiques. Alors, je veux dire, Dieu est présent dans
toute
leur...
Il y a des églises dans leur village.
Ah, ouais, ouais, ouais. Au milieu de la jungle, il y a 3-4 maisons, ils ont construit une église. Hein.
Mais les maisons, elles sont faites comment? Elles sont des maisons ou
ouais, c'est des maisons, c'est-à-dire que c'est des tapiris, ils n'ont pas de parois en général. Ils n'ont pas de parois, ils sont légèrement surélevés pour pas que les animaux...
C'est en bois.
Pour pas que les animaux de la jungle rentrent dedans. Puis c'est des toits tressés, quoi. C'est des toits tressés avec des feuilles, quoi. Ils tressent ça, quoi. Puis bon, ça dure assez longtemps, c'est étonnant, d'ailleurs. Et puis, bon, alors eux, Dieu est toujours présent, quoi. Quand ils disent toujours, c'est toujours « gracias a Deus, c'est Deus que ser », tu vois, tu lui dis... Alors, on se voit bientôt, je reviens te voir et tout. Puis il lui dit toujours, ouais, si Dieu le veut, quoi.
Ouais, mais ça veut rien dire, enfin, ça veut...
Ouais, non, enfin, j'entends, Dieu est toujours présent. Eux, ils croient en Dieu profondément, quoi. Profondément en Dieu. Puis bon, ça fait pas mal d'années maintenant que l'endoctrinement il a eu lieu. Il a eu lieu déjà à l'époque, quand il y a eu le boom du caoutchouc, ça a amené aussi tous les missionnaires et tout ça, quoi. Et la religion s'est propagée dans toute l'Amazonie, quoi.
Mais pourquoi, en fait, le fait que... J'ai pas encore bien compris pourquoi, en fait, les Indiens, ils ont peur des chercheurs d'or.
Bon, parce que d'abord, ils les chassent de leur territoire. Il y a toujours plus de chercheurs d'or. Hein.
Ah, ils les chassent de leur
territoire. Ah ouais, ils les chassent de leur territoire. Et il y a toujours plus de chercheurs d'or qui vont toujours plus loin dans la jungle pour trouver des trucs. Hein, puis ils se cachent et tout, pour pas qu'il y ait d'autres gens qui viennent chercher. Tu vois, ils se mettent à 3 ou 4, des fois ils achètent une machine. Puis ils veulent pas qu'il y ait d'autres gens qui se rêvent dans leur histoire pour se faire un maximum de blé, quoi. Et puis ils vont toujours plus loin, puis ils chassent les Indiens, puis eux ils sont armés. Alors, ce qui est malheureux au Brésil, tu sais qu'il y a une corruption qui est terrible, quoi. Tout le monde, tout est corruption là-bas. T'achètes tout avec l'argent. Tu sais que ce qui est dramatique en Amazonie, c'est que. Avec l'argent, les Gary Impero, comme ils ont de l'argent en général, ils arrivent à avoir les militaires avec eux, ils achètent les militaires.
Parce qu'il y a des militaires en Amazonie.
Ouais, ouais, il y a des militaires, ouais, t'en retrouves.
C'est-à-dire, ils se déplacent la police militaire. En bateau.
Ouais, non, c'est pas, tu la vois pas, tu t'en vois pas beaucoup. Hein. Tu sais, il n'y a pas de loi, c'est la loi de la jungle. Là-bas, dans la jungle, qui tu veux, quoi. D'ailleurs, tous les Indiens, ils ont eu des histoires dans leur famille, quoi. Quelqu'un qui s'est fait tuer, ils ont retrouvé quelqu'un tué. Ils savent que c'est des Gary Impero comme ça. Ils les tuent, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de justice, quoi. Il n'y a rien, quoi. La justice de Dieu, comme ils disent. Ou la justice de la jungle. Il y en a pas mal qui parlent de la justice de la jungle. Mais ce n'est pas les patrouilles comme ça qui sont...
On sent la présence de l'État,
non,
quand même.
Non, non, non. Pas très du peu, tout. Très, très peu. Pratiquement pas, quoi. Et puis, alors, bon, toi, les Gary Impero, ils arrivent comme ça avec leurs armes et tout, puis ils les chassent, quoi. Ils les chassent de leur territoire. C'est ce qui passe à un bled qui s'appelle Saint-Gabriel de la Cachoeira, là où j'étais, où j'ai fait ma dernière expédition. Où là vraiment c'est un des endroits les plus craignos d'Amazonie, parce qu'il y a vraiment tout, quoi. Il y a chercheurs d'or, il y a des rixes avec des bon les vrais indiens, il y a des chercheurs de diamants, c'est une plateforme de la cocaïne, enfin c'est vraiment le bled bouillonnant, il y a plein de trucs qui se passent, quoi. Puis là il s'est passé tout dernièrement, parce que alors ça n'arrête pas, hein, des groupes de Gary Impero qui se mettent ensemble et puis qu'on détectait beaucoup d'or là où se trouvent des Indiens, puis ils arrivent avec les militaires, puis ils les chassent, puis il y en a toujours 4 ou 5 qui passent. Il y a des massacres d'Indiens encore, parce que les Indiens, évidemment, les Indiens c'est des gens qui sont très orgueilleux, hein, très fiers, donc en plus de ça, quand ils leur font ça avec des armes et tout, eux ils sont pas du tout bon, on se casse autre part, hein, ils reviennent, ce qui est normal, c'est leur terre, à la limite ils y sont nés, ces mecs là ils ont rien à y foutre, c'est l'horreur, c'est qu'ils reviennent, et puis bon, évidemment qu'on désarme avec leurs flèches souvent. Avec leurs flèches et leurs arcs, leurs lances, ils pèsent pas lourd contre des mitraillettes, quoi. C'est vraiment ça, ça fait qu'il y a des massacres continuellement. Donc, eux, quand même, il y a toujours cette peur du Gary Impero et la peur de l'homme blanc. parce que de génération en génération, ça fait bien des générations que l'homme blanc il essaie de pénétrer en Amazonie, hein, ça fait bien longtemps. Hein, il y a fait combien de siècles maintenant que les Espagnols, les Portugais ont débarqué en Amazonie, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des trucs horribles. Et ça, de génération en génération, ça s'est propagé. De plus, l'homme blanc, il a amené quoi ? Que les désastres, la mort, l'homme blanc, il a amené les maladies, il a amené énormément de choses comme ça. Ça fait qu'il y a cette peur continuelle de l'homme blanc, quoi, qui est toujours présente. Puis je sais pas sur quoi on pourrait virer un peu comme sur comment vivent les gens en Amazonie. Ouais. On pourrait passer un petit morceau de musique et puis après on pourrait parler un peu, voir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils chassent.